Bonjour Pauline Pénaubert.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission politique de l'eau au sein de l'association Eaux et Rivières de Bretagne. Les eaux et les rivières qui s'assèchent, puisque la Bretagne, comme le reste de la France, voit la vague de sécheresse commencer à déferler. Fin avril, le préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a placé le département en vigilance sécheresse, le premier niveau, mais vient de passer le deuxième niveau d'alerte sécheresse, donc deuxième niveau sur 4. Son homologue du Morbihan a fait de même quelques jours plus tard, début mai. Et puis sur le plan national, c'est à peu près trois quarts des départements qui sont en alerte menacée, un quart en alerte renforcée, voilà, notamment dans l'ouest et dans le sud-est. Alors, est-ce que la situation, pour commencer, est-ce que la situation est plus précoce que d'habitude ?
Plus précoce que d'habitude ? Oui et non. Parce qu'en fait, déjà en 2017, on avait eu un arrêté sécheresse qui avait commencé dès le mois de mars, parce qu'on avait eu des pluviométries encore plus faibles pendant l'hiver. Donc là, vraiment, on était très inquiets sur la situation. Mais tout le printemps et tout l'été, il n'y avait plus. Donc ça avait permis de, on va dire, passer la sécheresse à peu près entre les gouttes. On avait pu alimenter tout le monde en eau potable. Mais cette année, le problème, c'est qu'il n'a pas du tout plu au printemps. Et donc, au déficit hivernal, ça s'ajoute ce déficit de pluie au printemps.
Et donc, malgré effectivement les orages de ces derniers jours, de manière générale, est-ce que la Bretagne, au-delà de la météo, est-ce que la Bretagne, ses sols, son climat, sont plus sujets à la sécheresse que d'autres territoires ?
Alors, on est bien dans un climat tempéré en Bretagne océanique, hein, ça c'est sûr et certain, mais du fait de sa géologie, en fait, la Bretagne, déjà, c'est une île. Donc, toute l'eau qui tombe en Bretagne va en Bretagne. On ne dépend pas de grands fleuves comme la Loire ou la Seine. Et deuxièmement, c'est qu'on a un sol schisteux et granitique, et c'est donc des sols très imperméables. Donc on n'a pas de grandes nappes souterraines comme on peut avoir à Paris, par exemple. Et donc nous, pour puiser notre eau potable, on la puise à 3/4%, 3/4 dans nos rivières et dans nos retenues. Et donc ça veut dire qu'on dépend très fortement des pluviométries hivernales et printanières.
Quelles sont les conséquences d'une telle situation du point de vue des cultures, de la biodiversité, de ce point de vue-là ?
Alors, pour l'agriculture, on était très inquiets là jusqu'à il y a 15 jours. Les pluviométries printanières vont nous permettre d'orage, là, vont donner un souffle d'air. Ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, à Lamballe, le maïs n'était pas encore sorti il y a une semaine. C'est vraiment très très tardif. Normalement, ça fait déjà une quinzaine de centimètres le maïs à cette période de l'année. Donc c'était vraiment très inquiétant. Ces pluies-là là, vont normalement permettre au moins aux cultures de commencer à pousser. Et on peut espérer, s'il pleut encore un peu à l'été, qu'on évitera une catastrophe. Mais ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Par contre, pour les cours d'eau, là, clairement, on est sur une situation très inquiétante. On a déjà des cours d'eau qui sont à sec, par exemple à Pimpon. Ils sont déjà à sec. Les pluviométries, pareil, vont leur permettre de reprendre quelques centimètres pendant quelques jours, mais on ne pourra pas compenser le manque qu'il y a eu au printemps et cet hiver.
Au niveau des activités humaines, également, qu'est-ce que vous, l'association Eaux et Rivières de Bretagne, qu'est-ce que vous observez et quelles conséquences ça peut avoir sur les activités humaines, que ce soit la consommation directe de l'eau potable ou alors l'entretien ou ces choses-là ?
En fait, pour la consommation d'eau, la Bretagne elle est assez particulière parce que comme on a une région d'élevage, hein, on a 40% du cheptel animal français, 120 millions d'animaux sur la Bretagne, sur 6% du territoire. On a une région qui a beaucoup plein de petits forages privés. Un forage privé, il n'a pas besoin d'être déclaré s'il prélève moins de 7000 m3 an. 7000 m3 an, c'est la consommation de 200 personnes. Vous imaginez le nombre de petits forages qu'on a en Bretagne qui ne sont pas déclarés et qui prélèvent et qui sont eux aussi soumis forcément aux sécheresses. Donc en période estivale, au moment où on a beaucoup de consommation estivale liée au tourisme, et bah, les agriculteurs et les industriels se remettent sur les réseaux d'eau potable. Donc au moment où tout est critique, on a une augmentation de la consommation et qui aujourd'hui est très mal connue du fait justement que ces forages ne sont pas suivis.
Est-ce qu'on va assister peut-être à ce dont on a pu assister il y a quelques années, certains étés, des camions-citernes qui amènent de l'eau potable dans des châteaux d'eau. Est-ce que les situations, on va dire, critiques comme cela peuvent arriver cet été, ces mois qui viennent ?
Il y a 5 ans, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, en fait, la réalité, elle est tout autre. On a vraiment déjà assisté, par exemple, en 2017, on était vraiment à deux doigts de la rupture. Et aujourd'hui, les chiffres sur l'état des ressources en eau potable montrent qu'on pourrait y arriver. La chance qu'on a en Bretagne, c'est qu'on a quand même un réseau d'acteurs autour de l'eau qui est très cohérent et très solidaire. Et donc vraiment, les acteurs essayent de se passer l'eau quand ils en ont besoin. Mais ça, ça marche tant qu'il y a de l'eau un peu partout. Si ça manque à un endroit et qu'il y a un autre endroit, on peut faire de la solidarité. Mais ça, si on a une grosse sécheresse, comme on peut vraiment le craindre cette année, ça ne marchera pas. Et donc là, vraiment, on est vraiment sur un risque de pénurie et d'amener à certains endroits de l'eau par camion-citerne. Oui, c'est une réalité.
Et alors, vous parliez des acteurs. Comment réagir face à ça ? Est-ce que c'est forcément du point de vue des pouvoirs publics que les décisions peuvent être prises ? Ou alors les citoyens au niveau du quartier, de la commune, du département peuvent agir et ça peut aussi servir ? Ou alors ça n'est qu'entre les mains des pouvoirs publics et c'est de ce côté-là que ça doit changer, que ça doit réagir ?
Pour nous, c'est vraiment tous les acteurs qui devraient agir. On voit bien, par exemple, pour les actions à niveau citoyen, de vous et moi, on voit que quand il y a des actions, des programmes d'économie d'eau qui sont mis en place par les collectivités et qu'on sensibilise les citoyens à mettre en place des produits hydroéconomes, à faire des douches plutôt que des bains, ça marche. On voit des baisses de consommation et qui peuvent être très importantes sur des territoires comme, par exemple, sur les îles bretonnes où eux, ils font déjà face à des sécheresses très très prononcés et eux ils ont vraiment pas d'alternative vu la taille de leur territoire et liée au tourisme très important. Eux, la consommation d'eau chez ces territoires là est vraiment très faible par rapport à la consommation nationale, mais par contre ça suffit pas. Si par exemple on rénove pas les réseaux d'eau potable et que donc comme certains endroits de France où ils perdent 50% de leur eau potable sur les réseaux, donc c'est-à-dire que c'est une eau qui a été traitée, qui a été payée et qui n'arrivera jamais au robinet, ça c'est vraiment des choses absurdes. Et si à côté de ça les agriculteurs et les industriels prennent pas leur part de responsabilité parce que eux c'est par contre des gros consommateurs et notamment souvent des gros consommateurs en période estivale, notamment pour arroser les cultures, et ben de toute façon les actions de vous et moi ne suffiront pas. C'est bien si on est tous solidaires ensemble qu'on pourra faire face à cette sécheresse et surtout aux changements climatiques qui font que ces sécheresses deviendront la norme. On peut le craindre malheureusement.
Je voulais revenir sur ce que vous venez de dire sur cette eau qui est payée par les consommateurs et qui à 50% n'arrive pas dans les robinets. Comment ça s'explique une telle situation ?
Ça c'est vraiment dans les territoires où les acteurs n'ont pas pris la mesure de la situation, du fait que la ressource en eau est quelque chose d'important. On a la chance en Bretagne que ce soit quasiment plus le cas aujourd'hui, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on parle notamment de la qualité. On ne parlait pas de la quantité, mais jusqu'à présent on parlait déjà de la qualité. Et donc ça fait longtemps qu'on a engagé des mesures de rénovation des réseaux. Et sur la Bretagne, grossièrement, sauf à certains endroits ruraux, on est plutôt sur des réseaux très performants et qui continuent d'être rénovés petit à petit. Donc heureusement, nous, on n'a pas cette absurdité de potabiliser de l'eau pour même pas qu'elle arrive jusqu'au robinet. Mais par contre, ça, c'est quelque chose qui doit continuer. Il faut tout le temps remettre de l'argent là-dedans parce que de toute façon, les réseaux ils s'usent. Et donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est pas juste rénover les réseaux, c'est bien la meilleure eau est l'eau qu'on protège, c'est l'eau qu'on ne consomme pas. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y a la solidarité, il y a les économies et il y a les changements de système.
Vous parlez de la qualité aussi. On peut parler de la qualité des cours d'eau. De ce côté-là, en Bretagne, on est comment ?
Alors, en Bretagne, on est mimi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Finistère, ils ont 60% des cours d'eau qui sont en bon état, tandis qu'ici, on est à 3% en Ille-et-Vilaine. Mais par contre, dans le Finistère, ils ont des choses qu'on n'a pas ici. Ils ont les algues vertes. Ils ont les baignades interdites à cause des cyanobactéries sur les plages. Et donc, en fait, c'est pas parce que ça semble être en meilleur état en Finistère que ça l'est. En réalité, ils ont aussi des graves problèmes face à l'eau. Mais nous, en Ille-et-Vilaine, ce qu'il y a, c'est que déjà, il pleut moins qu'en Finistère. On n'a que 750 mm d'eau en moyenne en Ille-et-Vilaine, ce qui est une moyenne très basse par rapport à la moyenne française. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, hein, c'est-à-dire qu'on en a peu. Et qu'en plus, le fait qu'on n'a que 3% de nos cours d'eau en bon état, y a très peu d'endroits où on peut prendre de l'eau potable. Et en période de sécheresse, ça devient vraiment un gros souci.
Et comment expliquer que 3% pour un département comme l'Ille-et-Vilaine, qu'il n'y ait que 3% des cours d'eau qui soient en bon état, que l'eau soit de bonne qualité ?
Y a plusieurs facteurs à cela. C'est quand même un territoire qui a été très aménagé depuis très longtemps. Hein. On regarde la Vilaine, on voit qu'elle a été aménagée depuis très longtemps. C'est un territoire où il y a beaucoup d'industriels, il y a beaucoup de population. Donc c'est un territoire qui a été beaucoup imperméabilisé. C'est un territoire qui est très attractif aujourd'hui, encore plus qu'avant. Mais c'est aussi un territoire justement où il pleut peu, donc où les pollutions ont du mal à partir. Et je dirais aussi, c'est peut-être justement parce que comme on n'avait pas les algues vertes en Ille-et-Vilaine, peut-être aussi que les populations ont moins pris conscience de la réalité de l'importance d'une eau en bon état.
Et Pour revenir sur un petit peu sur les agriculteurs, tout à l'heure on parlait de ça, notamment de l'agriculture et des cultures en général. Alors c'est une vaste question qui se pose au niveau national, je pense aux bassines par exemple, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres. Est-ce que on a l'impression quand même qu'il y a, il y a une sorte de bras de fer insoluble entre finalement ces retenues d'eau qui sont utiles pour les cultures et puis ces retenues d'eau qui sont utiles pour la consommation, pour la biodiversité. Est-ce que cette question, elle est réellement insoluble ? Est-ce qu'on va vers un cul-de-sac ou est-ce qu'il y a quand même, des solutions et il y a moyen de s'entendre ?
Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, c'est qu'en fait, en Ille-et-Vilaine, on est un des territoires qui a le plus de plans d'eau de France. On a 15 000 plans d'eau en Ille-et-Vilaine. Ça fait 2 plans d'eau par kilomètre carré, voire plus dans certains endroits du territoire. Donc déjà, on est sur un territoire où les retenues, elles sont déjà là partout. Elles ne sont pas forcément utilisées que pour l'irrigation. Elles sont notamment beaucoup utilisées pour les loisirs, la pêche, la baignade le week-end avec sa famille. Mais elles sont déjà extrêmement présentes. Et sauf ces retenues, c'est un peu le bon sens, comme on se disait à une époque, la terre est plate. Et parce que je ne vois pas de courbure de la planète. En fait, les retenues, elles ne sont pas sans conséquences. Notamment, par exemple, ça fait une augmentation de la surface de l'eau, donc une augmentation de l'évaporation. Donc, c'est-à-dire qu'en période où il fait sec, où on a besoin d'eau, on a une augmentation de l'évaporation de l'eau, ce qui est l'inverse de ce qu'on voudrait, en fait. Donc déjà, ces retenues, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas si utiles que ça. C'est vraiment dans certains cas, et notamment pour l'agriculture vivrière, pour le maraîchage, que ça peut être intéressant, mais il ne faut pas penser que c'est l'unique solution face aux périodes de sécheresse. Au contraire, en fait, souvent, elle a beaucoup de conséquences. Dans les autres conséquences, par exemple, c'est pour les retenues qui sont sur les cours d'eau, ça augmente la température de l'eau, ça empêche la continuité écologique, la continuité sédimentaire, donc on va avoir des amassements de vases à certains endroits et des manques de fluidité du cours d'eau, donc ça fait des risques de crue, ce genre de choses. C'est vraiment une question assez complexe, vraiment. Et en Bretagne, si on n'a pas eu beaucoup de retenues d'irrigation pour l'instant, on en avait quand même déjà un petit peu dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. Et le fait qu'on ait déjà de toute façon beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans d'eau, ça aggrave encore aujourd'hui notre situation de manque d'eau en période estivale. Pour revenir à l'agriculture, en fait, déjà, les systèmes alternatifs nous montrent bien qu'on peut s'en sortir. L'agriculture bio, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est efficace et qu'elle nourrit le monde. Faut arrêter de croire que c'était l'agriculture du 15e siècle. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, l'agriculture bio, c'est une agriculture vivrière. Déjà, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Et ce qu'il faut se dire, en fait, surtout aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ralentir le cycle de l'eau. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu des pluies d'orage hier, avant-hier. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Immédiatement, on a eu des inondations. Parce que l'eau ne s'infiltre plus dans nos sols. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment le message à faire passer, c'est qu'il faut ralentir le cycle de l'eau. Et au mieux que l'eau soit dans nos cours d'eau et s'enfuit, il faut vraiment qu'elle soit aussi dans nos sols et qu'elle serve justement à nos plantes et à résister justement. Elle nous rendra, si l'eau est ralentie, si l'eau reste dans nos sols, elle nous rendra résilients face aux périodes de sécheresse. Et c'est vraiment aujourd'hui le message, parce qu'il faut se dire, il y a des exemples où justement, il y a 40-50 ans, quand une pluie importante arrivait à Vitré, on la voyait à Redon au bout de 6 jours. Aujourd'hui, c'est au bout de 3. Donc on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, l'eau s'enfuit et c'est pas par les retenues qu'elle restera dans nos sols, mais c'est bien en recréant des zones humides, en recréant un bocage efficient, en ayant des pratiques de couverture du sol, vraiment de système agricole où l'eau va rester. On va aussi changer, par exemple, les cultures prairiales. On peut, tout en gardant des prairies pour les vaches en Bretagne, en Ille-et-Vilaine notamment, on peut changer les types d'herbes qu'on y met. Et il y a vraiment des exercices qui sont déjà faits par les agriculteurs là-dessus.
Pour revenir au geste des citoyens, des citoyennes qui voudraient apporter la pierre à l'édifice comme ça de cette préservation de l'eau. Est-ce qu'il y a des comportements auxquels on ne prête pas forcément attention et qui peuvent aller un petit peu à l'encontre de la bonne consommation de l'eau ? C'est vrai qu'on pense forcément à la douche au lieu du bain, mais est-ce qu'il y a des comportements même de manière involontaire et inconsciente que les citoyens et les citoyennes pratiquent et qui sont pas forcément, qui vont pas forcément dans ce sens-là de la préservation de l'eau.
Par exemple, les nettoyages des voitures, ça peut être ça. Et moi, je vous dirais, une des choses importantes serait de la tracophyte. Nous, on appelle ça la tracophyte parce que un robinet qui coule, c'est plusieurs dizaines de milliers de litres qui sont perdus au bout d'un mois. Donc, c'est vraiment des volumes, des fois très importants, et des fois déjà, d'ailleurs, quand on reçoit la facture et qu'on a eu un robinet qui fuyait, mais des fois c'est pas visible la fuite. Hein. C'est des fuites dans le réseau, donc on la voit pas. C'est des fois plus de centaines d'euros en plus sur la facture d'eau pour les citoyens. Et ça, par exemple, rénover ces réseaux, c'est vraiment quelque chose qui permet d'économiser de l'eau.
Pauline Pénaubert, merci beaucoup d'être venue au micro de Syllab. On retrouve évidemment toutes les informations concernant la sécheresse et l'eau en général sur le site d'Eau et Rivières de Bretagne. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.